Bible de l'humanité, 3, la Grèce, chapitre 5, l'éducation, l'enfant Hermès. Le génie humain de la Grèce et sa facilité charmante, la magnanimité d'Athènes, éclatent spécialement en deux choses, la faveur avec laquelle elle accueillit les dieux doriens, sa bienveillance admirative pour Lacédémone, son ennemi. En l'honneur de ces dieux, rudes d'abord et demi-barbares, le roux Phébus à l'art mortel, le lourd héros de la massue, Athènes inventa des fables ingénieuses. C'est Minerve elle-même qui recueillit Hercule à sa naissance, le sauva de Junon. Plus tard, elle garda et défendit les Héraclites, réfugiés au foyer d'Athènes. Thésée, l'ami d'Hercule, elle le protégeait d'Apollon. Le dieu du jour éclaira pour Thésée les ténébreux détours du labyrinthe de Crète et sauva les enfants qu'eût dévoré le Minotaure. Ces enfants, chaque année, vont lui rendre grâce à Délos. En retour, les Doriens, un peu humanisés, acceptèrent, accueillirent les anciennes religions, les dieux chéris d'Athènes. Sparte, malgré son orgueil sauvage, reçut la Cérès de l'Attique. Hercule se fit initier à Éleusis par la déesse et porta ses mystères à Sparte, mais non pas son esprit de paix. L'aveugle prévention de Tacite pour la Germanie, l'anglomanie française du dernier siècle, semble se retrouver dans l'engouement étrange des grands utopistes d'Athènes pour la rue de Lacédémone. Quand ils en parlent, ils sont de vrais enfants. L'extérieur austère les séduit. Ces spartiates, muets, à grande barbe, sous leurs mauvais manteaux, nourris grossièrement avec leurs brouets noirs, se réservant la pauvreté et laissant la richesse aux serfs, leur semblent des philosophes volontaires. On les pose un exemple. Platon, dans ce long jeu d'esprit qu'il appelle la République, les copie et les exagère jusqu'à l'absurdité. Xénophon leur prend ce qu'il peut pour l'éducation romanesque qu'il prête à son Cyrus. Le grand Aristophane loue Sparte et se moque d'Athènes. Aristote, si sérieux, lui-même par moments les imite et n'est pas plus sage. Il est vrai que quand il s'agit de poser la haute formule, définitive et vraie, de la cité, celle d'Aristote est précisément anti-spartiate. Il dit que la cité, dans son unité même, n'en doit pas moins être multiple, non composée d'hommes semblables comme était Sparte, mais d'individus spécifiquement différents comme fut Athènes. Différences qui permettent le jeu des forces variées, l'échange des services et bienfaits mutuels, l'heureuse action réciproque de tous sur tous. La cité est ainsi pour elle et pour l'individu la plus puissante éducation. Au centre du mouvement, on ne voit pas le mouvement, on n'en sent guère que la fatigue. Ces raisonneurs, pour tisser finement le fil subtil de leur longue déduction, auraient voulu le calme et le silence que la vie agitée d'Athènes ne donnait guère. Ils enviaient, comme un séjour de paix, l'apparente harmonie de Sparte. Cette vie contractée et terrible, fixée dans un mortel effort où leur génie aurait été paralysé, stérilisé. Dans la fausse cité, strictement une et monotone, où tous ressembleraient à tous, le citoyen, anéanti comme homme, ne vivrait que par la cité. Le héros, qui est l'expansion, riche, libre de la nature humaine, si par impossible il venait à se produire, y paraîtrait un monstre. À Sparte, tout fut citoyen, et pas un héros au sens propre. Divin génie d'Athènes, ses plus grands citoyens n'ont été des héros. Et cette belle singularité se voit même ailleurs qu'à Athènes, à un moindre degré. On la retrouve aux autres villes. Elle est la gloire du monde grec, et c'est elle qui en fit la joie. Forte par l'agora, les lois, l'activité civile, l'âme se sentait grande et haute, dans une harmonie supérieure même à la cité, la vie grecque. Par Homère, les jeux et les fêtes, par l'initiative des dieux éducateurs, Hermès, Apollon et Hercule, elle nageait plus haut que la patrie locale, dans l'éther de la liberté. De là vient que la Grèce, sauf de rares moments troubles, eut ce bel attribut de l'énergie humaine que l'Orient n'a pas, et encore moins le pleureur Moyen-Âge, le grand signe des forts, la joie. Elle avait au talon des ailes, légères, sûres d'elle-même, à travers les combats, les travaux inouïs. Elle est gaie manifestement et sourit d'immortalité. Rien ne dure. La cité, cette œuvre d'art sublime, la cité passera, et les dieux passeront. Faisons l'homme éternel. L'homme est le fond de tout. Avant la cité, il était. Après elle, il sera. Un jour viendra où de Lacédémone on ne trouvera plus que des ronces, d'Athènes quelques marbres brisés. L'âme grecque restera, la lumière d'Apollon et la solidité d'Hercule. Cette âme sent et sait qu'elle est divine. Elle a été bénie à sa naissance, bercée des nymphes et douée des déesses. L'enfant, en entr'ouvrant les lèvres avec le lait, y a trouvé le miel qu'une abeille divine y déposa. Il est né pur. Pur le sein maternel. La femme grecque qui peut participer au sacerdoce n'est point la douteuse Ève, si crédule au serpent, si fatale à ses fils, qui leur transmet le péché dans le sang et qui les damne tous, sauf le nombre minime, imperceptible des élus. La fable de Pandore n'a pas du tout la même portée. Pandore ne corrompt pas la génération elle-même. L'enfant n'est pas impur avant de naître, et d'avance un petit damné. L'éducation ne sera pas comme celle du Moyen-Âge, le castoiement, une discipline de punition, de fouet, de pleurs, un enfer préalable. On dit et l'on répète que la Grèce méprisa la femme. Je ne vois pas cela. Elle est associée au sacerdoce, elle est sibylle à Delphes, prêtresse au grand mystère, et pontife à Iphigénie. Cela seul change toute chose. La mère est pure, la nature bonne, donc l'éducation n'est possible, une éducation naturelle qui, pour l'enfant, est la liberté même. On lui donne l'essor, on ouvre la carrière, on l'enhardit, le lance. Cours, va dans la lumière, les dieux t'appellent et te sourient. L'Orient n'a d'éducation que ses disciplines sacrées. L'Occident, pour éducation, a l'écrasement de la mémoire. Il porte les mondes antérieurs, pesants, qui ne s'accordent pas. La Grèce eut une éducation. Éducation vivante, active, libre et non de routine. Éducation à elle originale, sortant de son génie, s'appropriant à lui. Éducation surtout, ce que j'estime infiniment, légère, heureuse, qui, étant la vie même, allait sans se sentir et sans savoir son poids. L'être saint n'en sait rien, il marche la tête haute, il va dans sa sérénité. L'obstacle insurmontable à l'éducation orientale, sacerdotale, c'est le miracle. Le miracle et l'éducation sont deux mortels ennemis. S'il peut venir du ciel un miracle vivant, un dieu tout fait. Inutile est l'art de le faire, art même téméraire et impie. Qu'est-ce que l'éducation, sinon une audacieuse tentative pour créer par moyens humains ce que la prière seule doit obtenir d'en haut? L'idée que Dieu peut un matin descendre et dénouer tous les nœuds d'ici-bas stupéfie l'âme indienne. Ce qu'elle garde d'activité va se perdant en fiction et de plus en plus puérile, s'usant au Noël radoteur du bambino Krishna. L'enfant Dieu est un l'enfant homme. Tout au contraire, la Grèce, peu crédule au miracle, ne se fie pas au Dieu. Dans l'imagination, elle conserve le bon sens. Si elle permet à Jupiter de descendre et de faire Hercule, c'est à condition que le héros se fera beaucoup plus lui-même. Loin que ce père lui serve, il est au contraire son obstacle dur, injuste pour lui. Il le soumet au tyran Eurysthée. Dès les âges antiques, la Grèce s'occupe de l'enfant, mais dans son mal idéal, elle craint les faiblesses de la mère. Pour maître et précepteur, elle donne un héros au héros. Achille a pour maître Chiron et Phénix. Apollon et Hercule sont les élèves de Linus. Ces dieux eux-mêmes sont, avec Hermès, les maîtres de la Grèce et ses éducateurs. Ils répondent aux trois âges, forment l'enfant, les faibles et l'homme. Heureux cadre, harmonique et doux, qui laisse tout essor aux natures si diverses. La jeune âme, suivant la voie tracée, d'un pas libre pourtant, d'Hermès en Apollon, d'Apollon en Hercule, par Minerve atteindra les hauts sommets de la sagesse. La Grèce avait déjà Hermès, dieu des races antiques, pour précepteur, éducateur. C'est par un tour d'adresse et de génie que, transformant les nouveaux dieux, elle les concilia avec Hermès et leur donna la jeunesse. Hermès garda l'enfant. Hermès perdit en gravité. Il ne fut plus terrible comme il avait été en Arcadie. Il fut l'aimable dieu de la place publique, des communications, de l'enseignement. Il se rajeunit fort. Il se fait presque enfant. Il a 16 ans ou 18 ans, le pied léger, ailé, svelte coureur. Il a non la molle élégance, mais les jolies mains de Bathilde. Chapeau ailé et caducé ailé. À chaque âme qui meurt d'un coup d'aile, il vole aux enfers pour la faire accueillir moins sévèrement de Pluton. Mais il n'en est pas moins présent sur toutes les routes pour diriger le voyageur, présent surtout aux portes du gymnase. Le petit y arrive, quittant sa mère et sa nourrice, intimidé, pauvre petit, c'est le plus grand pas dans la vie. Oui, la chute pour l'homme, c'est de quitter la femme, et pour la première fois, d'aborder l'étranger. Le jeune dieu, charmant, sait bien le rassurer. Il est le mouvement, la course, la parole, au plus haut point, la grâce. Avec lui, l'enfant, tout séduit, oublie parfaitement le foyer monotone, la faible mère et la molle nourrice. Il ne connaît que le gymnase, il en rêve, et d'Hermès, c'est sa mère et son dieu. Ce dieu, justement, lui demande ce que désire son âge, ce qu'il aime et ferait. Quoi ? Simplement deux choses, gymnastique et musique, le rythme et le mouvement. La liberté, le jeu, la course et le soleil, voilà sa vie. Il brunit, il fleurit, il obtient tout d'abord la svelte plénitude, non maigre, mais légère, sur laquelle les dieux mêmes arrêtent volontiers le regard. L'Olympe, comme la terre, s'y complaisait, et c'était œuvre sainte d'exposer la beauté au ciel. Athènes, pour rendre grâce de sa victoire de Marathon, voulut que le plus beau des Grecs, que Sophocle, âgé de 15 ans, menât un chœur d'enfant et dansât devant les dieux. Le beau de cet âge est la course, vrai moment de la beauté mâle. Celle des femmes ici est molle et gauche, j'allais dire pesante. La fille hésite, se prépare, lorsque déjà vainqueur, l'autre est au but et rit. Heureux enfant, Hermès veut plus encore pour lui. Il appelle Castor à son aide. Pour prix à ce vainqueur, on va donner, mais devinez ici, un trépied d'or à lui. Et que voulez-vous qu'il en fasse? Ce qu'il va recevoir, il en rougit d'avance, il frémit, il se trouble. Non, même au jour d'hymen, quand la Vierge viendra voilée, jamais tant ne battra son cœur. Un être merveilleux que Neptune, d'un coup de trident, tira de la mer écumante, tempête animée, mais docile, terrible et douce, ardente, et lançant le feu des naseaux, des quatre pieds l'éclair. Voilà ce qu'on va lui donner. Il n'en croit pas ses yeux. Et quand il est dessus, étonnant mariage, ils vont de la même âme. Ce cheval héroïque irait contre l'acier, et pourtant, au fond, c'est un sage. Dans son plus vif élan, il a la mesure et l'arrêt. Il peut suivre la pompe avec les jeunes vierges à la fête des Panathénées. Ne craignez rien pour la fille et l'enfant. Lui-même, il sait qu'il porte un enfant, son ami, un peu flottante encore. Dans cette tête ardente du plus fougueux des êtres, un rayon n'est pourtant de la sobre, de la sage Athène. Cependant, il faut bien s'asseoir. Voilà midi. En prenant son repas d'eau claire et de quelques olives, le cavalier déjeune aussi de l'Iliade. Chacun en sait un peu, un chant peut-être de 1000 vers, chacun son chant, son héros favori. Au bouillant, c'est Ajax, Hector au doux, au tendre l'amitié d'Achille et Patrocle. Entre ces types si variés, on choisit, on compare, on plaide, c'est le vrai esprit grec, pour celui-ci ou celui-là. Des harangues déjà commencent. Hermès sourit. Voilà des orateurs. Le gymnase est une agora. Ainsi, de très bonne heure, se forme et s'assouplit la langue dans ces jeunes bouches. Vrais fils d'Ulysse, ils naissent subtils et curieux, de fines oreilles et délicates. Soigneux du bien dire, calculés. Dans leur rivalité, leur colère même, ils visent à bien parler, comme si déjà ils songeaient que la parole est reine des cités, l'instrument des combats plus graves qu'il leur faudra livrer demain. Vrai verbe humain, cette langue, devant laquelle toute langue est barbare, est naturellement si bien faite que celui qui s'en sert et qui la suit directement, par cela seul arrive bien, sans parler de sa grâce et mélodique et littéraire, de sa variété en toutes les cordes de la lyre. Notons la chose essentielle. Elle a la vertu déductive, composition et décomposition, la puissance d'exposer et faciliter toute forme de raisonnement. Cette langue était une logique, un guide, comme un maître sans maître. Dès le gymnase, affinée et facile, elle le prêtait à la discussion. Mais, d'autre part, sa grande lucidité simplifiait, éclairait les débats. Un idiome très parfait rend l'esprit serein, harmonique, le pacifie, dissipe nombre de préjugés d'ignorance qui font les haines, perpétuent les disputes. De là, la grande douceur, la charmante docilité qu'on admire en ces jeunes gens de Platon et de Xénophon. Cette belle langue était leur Hermès, l'aimable conciliateur qui rapproche et qui fait la paix.